Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant. Fugue. Au programme, FTA 2023, Soliloquio, de et par Tiziano Cruz. S'affirmer au-delà des violences. Le Texas vote l'interdiction des soins de transition de genre aux mineurs. Malgré l'amendement à la loi anti-LGBT, les homosexuels risquent toujours la peine de mort en Ouganda. Et la santé mentale des personnes LGBTQI+, en Croatie est en danger. Bonne écoute!
FTA 2023, Soliloquio de et par Tiziano Cruz, s'affirmer au-delà des violences. Un texte de Denis Daniel Bouillet, paru le 11 mai 2023 dans le magazine Fugue. Soliloquio de Tiziano Cruz constitue un des grands événements du Festival Transamérique FTA. À travers la démarche personnelle de cet artiste argentin, toutes les grandes problématiques auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles nous cherchons des réponses sont exposées dans ce spectacle confrontant. Tiziano Cruz provient d'une région dans le nord de l'Argentine appelée Jujuy. Issu d'une famille aux origines indigènes, rien ne le prédestinait à devenir comédien, plutôt à gonfler le grand nombre de ses semblables qui survivent dans les banlieues des grandes villes argentines. Artiste queer, Tizi a inscrit dans son corps tout ce qui le distingue, mais aussi le rejette dans une société normalisée et blanche. Les violences symboliques, sans oublier celles sur le corps, il connaît. Comment grandir alors, en sachant que l'on sera toujours un citoyen de seconde zone, un marginal aussi bien en raison de ses origines, de la couleur de sa peau, que de son orientation sexuelle. À travers ce long monologue, où le corps joue un rôle prépondérant, Tiziano livre un parcours autobiographique, un acte de résistance pour éviter que lui et les siens ne disparaissent. Il nous parle de son étonnement d'avoir en 2022 été invité à se produire au FIBA, le Festival international de Buenos Aires. Une occasion de faire entendre la voix et les cris des sacrifiés de la colonisation. Le spectacle se déroule en deux temps. Un défilé dans la rue, puis Tiziano Cruz se retrouve seul en scène. Comment t'es-tu retrouvé dans ce premier grand festival? Il faut mentionner peut-être, pour commencer, que le FIBA est le festival des arts de la scène le plus important en Argentine et qui a une grande influence internationale. Quand je vivais dans le nord de l'Argentine au début des années 70, j'avais souvent entendu parler de ce festival. On disait que c'était le meilleur et que l'on présentait des œuvres d'autres pays. Il y avait pour moi quelque chose de mythique. En toute innocence, je m'imaginais, je me projetais d'être un jour un spectateur. Jamais il ne m'était passé par la tête la possibilité d'en faire partie parce qu'au fond de moi, je savais que ce lieu n'était pas fait pour moi. 12 ans plus tard, quand est arrivée l'invitation de faire partie du FIBA, j'ai d'abord pensé que c'était pour travailler dans la logistique et l'accompagnement des artistes. Mais non, pour la première fois, un artiste de Jujuy était invité pour présenter un spectacle au sein de la programmation dont le thème en 2022 était « Le meilleur du pays ». Le festival se voulait enfin fédérateur, parce qu'en réalité, le festival avait été et continuait à être en grande partie très centralisateur, un espace théâtral pour une élite. Pour moi, c'était comme si quelqu'un entrait par la fenêtre d'une maison, comme un étranger à l'intérieur de ma maison. Nous avons présenté le spectacle dans deux espaces mythiques à Buenos Aires. La première partie du spectacle a été d'intervenir tout d'abord sur la Calle Corriente, où se trouvent les grands théâtres officiels et commerciaux, une espèce de Broadway portuaire, et nous étions accompagnés de 70 personnes de la Comunidad Morenada y Poderosa Andina, des personnes migrantes du Pérou, de la Bolivie et du nord de l'Argentine, qui vivent actuellement dans des zones réservées, qui sont aussi des espaces de précarité absolue, sans aucun service de base, où les personnes survivent comme elles peuvent. Nous avons dansé nos danses andines par groupe de 10, comme un adieu ou une séparation avec le rêve américain en investissant un lieu très marqué socialement, la Calle Corriente, avec l'exposition esthétique de nos corps, qui ne correspondait pas aux normes occidentales. La seconde partie se déroulait au Centro Cultural Ricardo Rojas, un autre lieu emblématique du théâtre Porteño à la fin des années 80-90, et il a fallu une trentaine d'années pour que le lieu soit consacré à un artiste de notre communauté. Vous écoutez FTA 2023, soliloquio de et par Tiziano Cruz, S'affirmer au-delà des violences, un texte de Denis-Daniel Bouillet, paru le 11 mai 2023 dans le magazine Fugue. Soliloquio a voyagé depuis jusqu'en Suisse. Comment le spectacle est-il reçu? Comment éviter que l'on pose un regard folklorique dessus, puisque tu fais appel à des danses et des musiques andines? Il y a, avec Soliloquio, des thématiques transversales qui touchent toutes les sociétés. L'une d'elles est la violence, qu'elle soit physique ou psychologique exercée sur les corps. Soliloquio se veut une œuvre universelle. C'est une pièce qui parle de la violence systémique, qui existe encore dans notre région et qui va plus loin. La première partie du spectacle joue avec l'idée du folklore. Nous montrons nos danses, notre musique, nos corps remplis d'espoir, nos couleurs, nos textures, nos croyances et nous avançons dans la séduction du public. En fait, une allusion claire aux joueurs de flûte de Hamelin, mais au fur et à mesure, les voix s'élèvent pour mettre en évidence cette violence qui finit par faire disparaître toute folklorisation. Chaque fois, ou presque, que nous avons présenté cette partie du spectacle, le public nous a ovationnés, nous disant que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait sortir dans la rue et tenter de changer ces réalités, car soliloquio n'est pas une métaphore de la violence. La violence exercée sur les corps, sur nos corps, est réelle. Pour finir, tu parles du migrant sur son propre territoire. Quelle définition donnes-tu à ce concept? Cette affirmation a tout à voir avec le centre et le sud de l'Argentine, qui conditionnent le mode de vie de tout un territoire. Un territoire qui se sent européen. Une grande partie de l'histoire, de celle des ancêtres des Argentins et des Argentines, est européenne, blanche, ce qui explique le mépris conscient ou inconscient de cette population blanche pour les cultures indigènes. Elle ne veut pas que nous nous référions à nos origines et à tenter jusqu'à aujourd'hui de supprimer cette histoire. La conquête, l'expansion territoriale et idéologique continue aujourd'hui pour que l'Argentine soit et se doive d'être une société blanche. Parce que le blanc est toujours meilleur que le noir ou le marron. Le grand danger est que souvent nous-mêmes, ma communauté entre autres, croyons à cette histoire. Mon corps et celui de ma communauté que je représente sont un poids. On parle beaucoup en Argentine de la xénophobie intériorisée parce qu'on nous considère toujours comme des étrangers. On me demande souvent d'où je viens. Il y a toujours comme un doute sur mes origines. Nous devons aussi rappeler que les concepts de pays et de nation sont des concepts coloniaux. Pour cela, je propose une rhétorique dont on ne parle pas ou pas assez en Argentine, celle de la violence et du racisme. Je ressens comme une nécessité impérieuse de nommer tout cela parce que, si nous restons dans la clandestinité, le colonialisme et l'esclavage actuels vont nous faire disparaître. C'était FTA 2023, soliloquio de et par Tiziano Cruz, S'affirmer au-delà des violences, un texte de Denis Daniel Bouillet, paru le 11 mai 2023 dans le magazine Fugue. Le Texas vote l'interdiction des soins de transition de genre aux mineurs. Un texte de l'agence AFP paru le 18 mai 2023 dans le magazine Fugue. Les élus du Texas ont voté mercredi 17 mai l'interdiction aux mineurs des soins de transition de genre, comme les traitements hormonaux ou chirurgicaux, tandis que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, promulguait un texte similaire. Ces textes, adoptés dans deux États républicains, constituent un nouvel exemple de l'offensive conservatrice sur les questions LGBT+. Au Texas, la législation interdirait aux médecins de pratiquer de tels soins. Une exception est prévue pour les mineurs suivant déjà un traitement, mais ceux-ci doivent progressivement s'en sevrer, d'après le document. Pour devenir une loi, le texte doit encore être signé par le gouverneur républicain, Greg Abbott, ce qui semble tenir de la formalité compte tenu de ses positions sur le sujet. L'an dernier, il avait ordonné à son administration d'enquêter sur les parents dont les enfants reçoivent de tels traitements, les assimilant à de la maltraitance. Cela avait poussé des familles à fuir l'État. Si le texte est promulgué, le Texas, deuxième État américain le plus peuplé, serait aussi le plus grand à avoir adopté une telle politique, mais pas le seul. Ron DeSantis, gouverneur de Floride, troisième État en nombre d'habitants, a signé le 17 mai une loi votée début mai qui interdit les traitements hormonaux et chirurgicaux de transition de genre aux mineurs. Le républicain, vu comme un très probable candidat à l'élection présidentielle de 2024, a comparé ses actes médicaux à des mutilations. « Il s'agit d'une attaque contre la liberté », a dénoncé Joe Saunders de l'association Equality Florida, qui défend les droits LGBT+. « Les États libres n'enlèvent pas aux parents le droit de décider quels soins recevront leurs enfants. » Au total, une quinzaine d'États ont adopté des restrictions de ce type. D'autres lois s'attaquent à la discussion du genre à l'école, à l'utilisation de pronoms non genrés par les mineurs ou encore au spectacle de drag queen, jugé trop sexualisé par les conservateurs. Illustration des divisions de la société américaine, des États démocrates ont au contraire promis d'être des sanctuaires pour les jeunes trans. C'était Le Texas vote l'interdiction des soins de transition de genre aux mineurs, un texte de l'agence AFP paru le 18 mai 2023 dans le magazine Fugue. Malgré l'amendement à la loi anti-LGBT, les homosexuels risquent toujours la peine de mort en Ouganda. Un texte de l'agence AFP paru le 5 mai 2023 dans le magazine Fugue. Face au tollé international qu'avait provoqué la première version, le président ougandais avait demandé à ce que le texte soit réexaminé. Mais dans cette nouvelle loi, les actes d'homosexualité restent criminalisés. Le texte maintient de lourdes peines pour punir les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité. Le Parlement ougandais a adopté ce mardi une version amendée d'une loi anti-LGBT+, qui avait suscité l'indignation de nombreuses ONG et gouvernements occidentaux. Face au tollé international, le président Yoweri Museveni avait demandé le 26 avril 2023 aux parlementaires de réexaminer le texte, les enjoignant notamment de préciser que le fait d'être homosexuel n'était pas un crime, mais que seules les relations sexuelles l'étaient. Les élus l'ont entendu sur cette disposition. La nouvelle version du texte consultée par l'AFP stipule qu'une personne qui est présumée ou soupçonnée d'être homosexuelle, qui n'a pas commis d'acte sexuel avec une autre personne de même sexe, ne commet pas le délit d'homosexualité. Les actes d'homosexualité restent passibles de prison. Dans ce pays où l'homosexualité est illégale, les actes d'homosexualité restent passibles de prison à perpétuité, qui punit les relations dites « contre nature » depuis une loi datant de la colonisation britannique. La promotion de l'homosexualité peut, elle, valoir jusqu'à 20 ans de prison. Les parlementaires n'ont en revanche pas suivi la demande du chef de l'État de supprimer une disposition faisant de l'homosexualité aggravée un crime capital, ce qui signifie que les récidivistes pourront être condamnés à mort. Incluse dans la législation ougandaise, la peine capitale n'est plus appliquée depuis des années. Les parlementaires ont modifié une disposition sur le devoir de signaler les actes d'homosexualité qui, selon Yoweri Museveni, présentait des défis constitutionnels et pourrait être une source de conflit dans la société. Cette obligation de déclaration, passible de 5 ans de prison, ne concerne désormais que les infractions sexuelles présumées contre des enfants et des personnes vulnérables. Nous avons une culture à protéger. Le monde occidental ne viendra pas gouverner l'Ouganda, a déclaré la présidente du Parlement, Annette Anita Hamong, après le vote final du texte approuvé à l'unanimité des parlementaires, sauf un. Mise en garde de l'Occident. Le texte doit désormais être envoyé au président qui peut le promulguer ou non. S'il devait renvoyer le projet de loi au Parlement une nouvelle fois, une super majorité des deux tiers pourrait permettre aux législateurs de valider le texte définitivement. Après le vote de la première version de cette loi, le 21 mars 2023, l'ONU, Amnesty International, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne avaient notamment exhorté Yoweri Museveni à ne pas promulguer ce texte. La Maison-Blanche avait mis en garde l'Ouganda contre de potentielles conséquences économiques. Dans une résolution le 20 avril, les eurodéputés avaient déploré la contribution du président Museveni à la rhétorique de haine envers les personnes LGBT+. Les relations entre l'Union européenne et l'Ouganda seront menacées si le président promulgue le projet de loi, avait-il ajouté. C'était, malgré l'amendement à la loi anti-LGBT, les homosexuels risquent toujours la peine de mort en Ouganda, un texte de l'agence AFP paru le 5 mai 2023 dans le magazine Fugue. La santé mentale des personnes LGBTQI+, en Croatie, est en danger. Un texte de l'agence AFP, paru le 4 mai 2023 dans le magazine Fugue. Selon une étude publiée le mois dernier, la première du genre dans le pays à grande majorité catholique, 25 % des Croates de la communauté LGBTQI+, ont été agressés physiquement. Victor Zatila a compté. Il a été agressé plus d'une dizaine de fois. Sa faute, être gay en Croatie, où les discriminations contre les membres de la communauté LGBTQI+, sont rampantes et alimentent de graves inquiétudes pour leur santé mentale. Ce réalisateur de court-métrage de 38 ans, pionnier de la lutte pour les droits des personnes LGBTQI+, dans le petit pays conservateur des Balkans, explique que la plupart des agressions ont été commises dans la capitale, Zagreb. Mais il a également subi, ainsi que son petit ami de l'époque, un passage à tabac extrêmement violent dans une localité touristique de la côte adriatique, voici deux décennies. « Ils nous ont massacrés littéralement », raconte-t-il à l'AFP. « Cela a duré si longtemps que je m'étais dit « c'est la fin, je ne vais pas survivre ». Cette agression et d'autres sont à l'origine d'un stress post-traumatique qui l'a longtemps affligé. Si un type à l'air macho me croise dans la rue, mon cœur se met à battre plus vite. Je deviens pâle, paralysé, dit-il. Au bout d'un moment, je me rends compte que c'est juste un type qui passe par là, mais j'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ce genre d'expérience n'est pas rare en Croatie. Selon une étude publiée le mois dernier, la première du genre dans le pays à grande majorité catholique, 25 % des Croates de la communauté LGBTQI+, ont été agressés physiquement. Le rapport relevait également que près des trois quarts des membres de la communauté LGBTQI+, interrogés, avaient eu des pensées suicidaires et plus de 15 % ont fait des tentatives de suicide. On savait que les chiffres allaient être inquiétants, mais c'était quand même une très mauvaise surprise, souligne Daniel Martinovic, porte-parole de Famille Arc-en-Ciel, l'ONG autrice de l'étude. Données alarmantes. Ils sont alarmants, dit-il, ajoutant que les données laissent à penser qu'une grande partie de la communauté subit des niveaux élevés de stress. L'étude relève aussi que les trois quarts des personnes LGBTQI+, ont subi des discriminations flagrantes au travail dans les institutions publiques et les établissements médicaux. Les données montrent clairement que dans notre société, les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles ne se sentent pas en sécurité, égales, respectées et protégées, dit Matea Popov, l'une des chercheuses ayant participé à l'étude. Avoir constamment la peur au ventre. Être persuadé que quelque chose de mauvais va arriver. Commentaires insultants, discrimination ou attaques physiques sont les facteurs qui pèsent le plus sur la santé mentale, jugent les spécialistes. Au cours des 10 dernières années, les droits de la communauté LGBTQI+, se sont progressivement améliorés dans le pays membre de l'Union européenne. Si le mariage entre personnes du même sexe reste illégal, des couples peuvent se déclarer « partenaires dans la vie » depuis 2014, un statut qui leur accorde quasiment les mêmes droits que ceux des couples hétérosexuels mariés. Malgré tout, les traditions ont la vie dure en Croatie, société fondée sur le patriarcat. Les groupes ultra-conservateurs y font régulièrement campagne contre l'avortement et les droits de la communauté LGBTQ. Ils ont réussi en 2013 à lancer un référendum qui a débouché sur l'interdiction du mariage aux couples de même sexe. Pour l'ONG Zagreb Pride, cette mesure a laissé le champ libre à un environnement politique et social négatif, favorable aux discriminations et aux attaques. Vulnérabilité. Pour la communauté trans, l'ambiance est spécialement lourde. Dijana Avdić, une femme trans qui vit à Zagreb, explique que la discrimination fait partie de son quotidien. Elle a subi un coup violent quand elle a révélé son identité de genre à l'université de Zagreb, où elle étudie la médecine et que les autres étudiants ont pris leur distance. « J'ai été confrontée à un manque de compréhension, à l'isolement », dit-elle à l'AFP. « Je me suis sentie vulnérable, exposée. » Les choses se passent mal également en dehors de l'université. Une fois à la mairie, un fonctionnaire a refusé de lui fournir un formulaire pour enregistrer son nouveau prénom et l'a accusé de vouloir tromper le monde. « Ça m'a bouleversée », se souvient-elle. Mais à la différence de nombreuses personnes LGBTQI+, en Croatie, elle est soutenue par sa famille. Un répit bienvenu. Un habitant de Zagreb de 36 ans, qui s'identifie comme une personne trans non-binaire et a réclamé l'anonymat, explique avoir souffert des réactions de sa famille, mais aussi du milieu médical. La psychiatre m'a dit que, tant que j'aurai un prénom féminin et l'initiale plus F plus sur mes papiers, elle me traiterait comme une femme, raconte-t-il, à propos d'une hospitalisation récente. Cela m'ennuie de devoir convaincre un médecin que oui, j'existe tel que je suis. C'était La santé mentale des personnes LGBTQI+ en Croatie est en danger, un texte de l'agence AFP paru le 4 mai 2023 dans le magazine Fugue.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.